Votre Majesté m'excusera, mais le roi ne meurt point en France. Voilà le roi vivant, madame. Réplique du chancelier Brûlart de Sillery à l'annonce de la mort d'Henri IV.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le vendredi 14 mai 1610, peu après 4 heures de l'après-midi, Henri IV quitte le Louvre en carrosse, accompagné de quelques gentilshommes. Il se rend à l'arsenal chez le duc de Sully, surintendant des finances et grand maître de l'artillerie du royaume, pour envisager les dernières mesures à prendre avant son départ pour Châlons-en-Champagne, où l'attendent 37 000 soldats. Le roi doit conduire cette armée vers le Luxembourg, afin d'appuyer les revendications de deux princes protestants, Jean Chisismond, électeur de Brandebourg, et Philippe-Louis de Bavière, comte palatin de Neuburg, dans la succession des duchés germaniques de Clèves et de Juliers, contre les prétentions de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg. La voiture, dont les ridelles de cuir ont été relevées, est escortée de quelques gentilshommes à cheval. Après la rue Saint-Honoré, elle s'engage dans la rue de la Ferronnerie, petite rue limitée de part et d'autre par des échoppes de marchands. Elle est vite immobilisée par un encombrement, non loin d'une auberge, appelée au cœur couronné percé d'une flèche. Une charrette de foin et une autre chargée de tonneaux de vin obstruent le passage. Le roi Henri a passé familièrement le bras autour du cou de son voisin, le duc d'Épernon, qui lui lit une lettre, car il a oublié ses lunettes. Quelques valets de pied, qui se tiennent habituellement aux portières du carrosse royal, descendent et passent par le cimetière des Saints Innocents qui longe la rue. C'est alors qu'un personnage à la carrure athlétique, à la barbe rousse, aux cheveux roux également, habillé d'un habit vert, surgit, saute sur la roue arrière gauche du carrosse et à trois reprises frappe d'un coup de couteau le monarque. Le premier coup atteint le roi entre la deuxième et la troisième côte. Le deuxième, plus violent, pénètre entre la cinquième et la sixième côte et transperce sans doute la veine cave. Le troisième se perd dans la manche du duc de Montbazon, son autre voisin. « ce n'est rien », répète Henri IV. Mais bientôt, un flot de sang lui envahit la bouche. On le ramène le plus vite possible au Louvre. On le descend précautionneusement du carrosse. On le met dans un fauteuil où il se repose quelque peu. Puis on l'allonge sur un lit. Là, il va y trouver la mort. Ainsi, le roi de France, le second, puisqu'Henri III a été lui-même assassiné en 1589, meurt tué par un de ses propres sujets. C'est le second régicide en très peu de temps. La question est de savoir désormais qui a pu armer le bras de Ravaillac. Est-ce qu'il a agi seul? Est-ce qu'il a été payé par une puissance étrangère? Est-ce qu'il a fait partie d'un complot plus large que sa seule personne? C'est ce que va essayer de déterminer une enquête royale. Parce qu'effectivement, Ravaillac ne va pas chercher à fuir. Il est resté sur place, tenant d'ailleurs dans ses mains pleines de sang le couteau qui avait servi à tuer le monarque. Quand on lui fait remarquer qu'il a tout de même tué le roi très chrétien, il se met à ricaner. C'est la question de savoir s'il était véritablement très chrétien, car s'il l'avait été, il aurait fait la guerre aux sectateurs de la religion prétendu réformé qu'il protégeait. Ainsi, dès ses premières remarques, Ravaillac semble vouloir dire qu'il a tué le roi parce que celui-ci aurait été un mauvais catholique. Ainsi, le procès pouvait peut-être avancer sur cette piste religieuse.
Vivant ce roi vaillant. Vivant Victor, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de boire et se battre et d'être vercalant.
Que sait-on d'Henri IV ? Il a lui-même parlé, d'ailleurs sous la torture, puisqu'il est passé à la question à la suite de son arrestation. Il s'appelle Jean-François Ravaillac. Il est âgé de 32 ans. Il est célibataire et il est originaire d'Angoulême. Il a donc fait le voyage depuis sa Charente natale jusqu'à la capitale afin de tuer le roi. À la question « Qui vous a poussé ?», il répond sans hésiter « Les sermons que j'ai ouïs pour lesquels il était nécessaire de tuer les rois. » À cela, rien d'étonnant, car la ville d'Angoulême était un nid de l'ultra-catholicisme au milieu d'une province où était fort présente la Réforme. Mais il a toujours nié avoir été soutenu par des puissances étrangères ou par des grands de la noblesse française qui l'auraient poussé à tuer le souverain. Le 27 mai, il est exécuté pour crime de lèse-majesté en place de Grève, actuelle place de l'Hôtel de Ville. On lui brûle la main qui a tenu le couteau. On lui tenaille au fer rouge les tétins et les cuisses. On verse du plomb et du soufre fondu sur ses plaies, puis on l'écartèle. Le supplice a, nous dit les chroniqueurs, attiré une foule avide de sang et de vengeance. Pourtant, au moment de mourir, il s'est écrié « On m'a bien trompé quand on m'a voulu persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple. » Reste à savoir si on peut mettre une identité derrière ce « on ». Plusieurs historiens se sont penchés sur effectivement les éventuels commanditaires du meurtre du roi. Jules Michelet, dans son Histoire de France, publié en 1857, puis également l'historien Philippe Erlanger, dans son livre de 1957 « Étrange mort d'Henri IV », arrive à la conclusion qu'il y a eu une conspiration menée par le duc d'Épernon. Celui-ci était connu pour ses sentiments pro-espagnols et finalement, l'hypothèse est que, téléguidé par la cour de Madrid, le duc aurait cherché un assassin potentiel pour liquider le roi Henri. Qui plus est, celui-ci était finalement aussi gênant envers la politique espagnole. Reste tout de même que la cour de Madrid a appris avec consternation la mort du souverain. Quand on annonça à Philippe III d'Espagne que son cousin de France avait été tué, celui-ci tomba des nues et, semble-t-il, témoigna sincèrement de sa stupeur et de son émotion. Ainsi, il est difficile de croire que le roi très catholique, qui avait lui-même un sentiment très haut de la charge royale, ait cherché un couteau de seconde main pour éliminer son cousin de France. Autre hypothèse, c'est celle que propose le grand historien de l'Ancien Régime, Jean-Christian Petit-Fils. Selon Jean-Christian Petit-Fils, il est possible que l'archiduc Albert de Habsbourg, qui, avec son épouse l'infante Isabelle Claire Eugénie, gouvernait les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire le Luxembourg et la Belgique actuelle, aurait essayé de liquider le roi de France qui s'apprêtait à traverser le Luxembourg afin de soutenir ces deux princes allemands alliés dont il a été fait allusion tout à l'heure. Ainsi, les régents des Pays-Bas espagnols auraient voulu éliminer la menace française en frappant directement le souverain français. Jean-Christian Petit-Fils a effectivement quelques arguments et une construction intellectuelle intéressante. D'autant plus qu'il y a une chose surprenante. C'est que quand on veut consulter les archives des États liés à la Maison d'Autriche, c'est-à-dire les archives de Simancas en Espagne, de Prague, de Vienne, de Bruxelles, eh bien celles-ci ont été expurgées des correspondances diplomatiques qui vont de janvier à juin 1610, comme si éventuellement on aurait voulu effacer d'éventuelles fâcheuses compromissions. Chose étonnante, il est vrai. Pourtant, est-ce que vraiment on ne peut pas partir du principe que Ravaillac, cet ultra-catholique, sans doute scandalisé par l'attitude bienveillante d'Henri IV, finalement, qui, par l'édit de Nantes, avait donné une place dans la liberté de conscience et dans la liberté de culte aux protestants français, eh bien peut-être que cet ultra-catholique a été sincèrement choqué et qu'il a voulu punir le souverain de cette tolérance envers ce qu'il considérait comme des hérétiques. Il est vrai qu'il y a encore, à l'époque d'Henri IV, des prédicateurs qui ne cessaient de signaler que le roi était un mauvais catholique, qu'il était scandaleux pour le royaume, qu'il y a encore des hérétiques sur le sol de la France, et que cet esprit quelque peu embrumé que fut celui de Ravaillac a pu être effectivement influencé par ses prédicateurs. Il n'en reste pas moins vrai que c'est tout un royaume qui, en ce printemps 1610, prend le deuil pour la mort de son souverain.